en ce dimanche matin. Bravo, bravo à tous pour l'effort. Je vous propose de vous applaudir. Alors, on va faire une petite rencontre de une heure, voire un peu plus, si on peut pousser le bouchon, avec Alexis Briclot. Vous pouvez me dire si vous le connaissez un petit peu déjà, vous connaissez son travail ou vous êtes venu parce qu'il n'y avait rien d'autre ce matin? Ouais? Non, vous êtes venu parce que vous connaissiez le travail un petit peu? Vous avez parcouru le livre d'Alexis, par exemple? Ouais? Vous avez eu quelques-unes de ses images dans le courant de l'année, par exemple? Vous êtes des adorateurs de Magic? Des joueurs, peut-être? Ouais? Bon. Bon, alors moi, je sais pas, je vous propose... parce que moi, je trouve que c'est quand même quasiment un des vraiment plus grands illustrateurs que l'on ait, pas qu'en France, en fait, puisque ce monsieur quand même travaille pour à peu près tous les produits de l'entertainment connus à travers le monde aujourd'hui et est un des artistes les plus estimés. Donc d'habitude, pour rendre hommage... On fait une minute de silence, mais moi je vous propose de faire une minute de bruit. On pourrait faire une minute de bruit ensemble pour Alexis, juste histoire de le mettre à l'aise. Alors moi, je suis un vieil illustrateur et j'ai envie de me lever pour l'applaudir, en fait. Bon, on va arrêter de l'embêter.
Oh, merci.
Mais c'est vrai que, bon, sans, pour parler franchement, moi c'est quand même en quelques dizaines d'années d'illustration, enfin deux décennies d'illustration, c'est quand même la première fois que je vois un illustrateur qui a pris du rock'n'roll, qui a pris tout ce qu'il avait pu trouver dans la musique punk, qui a pris l'acier des armures et qui en a fait de la peinture. Et ça, moi, pour moi, je lui tire vraiment mon chapeau.
Ah, donc, que de compliments, bravo. Monsieur Francescano. Merci.
Bon, maintenant, on va essayer de parler un peu du livre, un peu du boulot, un peu de savoir comment... se sont déroulés, c'est quoi, c'est 12, c'est ça?
12 années, ouais.
12 dernières années,
ouais.
Ou 12 premières années, on va dire 12 premières années.
12 premières années professionnelles, mais après, voilà, c'est...
Enfin, ouais, il y a eu quelques années avec Ribouillet sur les carnets,
bien avant, ouais.
Les cahiers de maths.
Ouais, hein, tout à fait. À faire pas mal de trucs.
Tu veux en parler un petit peu de ton enfance sur les cahiers de maths ou
Ouais, j'ai peut-être 2-3 anecdotes qui peuvent être rigolotes.
Allez. On va essayer.
Tu veux que je parle des couvertures des pockets que j'arrachais dans les magasins? Non? Les couvertures à toi.
Si tu veux encore plus me filer un coup de vieux, oui, tu peux en parler.
J'espère qu'il n'y a pas d'éditeur dans la salle, sinon je vais être un petit peu grillé. Mais effectivement, ouais, quand j'étais petit, j'arrachais les couvertures pour les collectionner, les couvertures des bouquins pocket, ceux où il y avait une espèce de petite carte, une impression en fait. Il y avait deux couvertures.
C'était le fleuve noir. Ouais,
le fleuve noir, mais il y avait deux collections, quoi.
Avec la couverture, avec l'emporte-pièce en triangle, peut-être.
Ah là, j'étais un petit cochon, mais je mettais ça dans un classeur, donc j'en avais pas mal de toi. Voilà, ça c'est juste
bon,
pour
la petite anecdote. Parce qu'on voit qu'on fait comme dans les autres débats, qu'on se passe là. Bon, alors raconte-nous un petit peu. Moi, tout le monde sait qu'Alexis, à peu près, a travaillé sur tous les supports de ce monde connu. On est d'accord. Il a fait du design de caractère pour les jeux. Il a fait du design de caractère pour les films. Il a fait des cartes. Il a fait des couves pour les jeux encore. Il a fait les couvertures de livres. Il a fait des livres, et pas qu'un peu. Pas que des livres, disons, qui passent totalement invisibles dans le paysage de l'édition française, parce que rien que les deux livres, en l'occurrence Merlin et celui-ci, le hardbook aujourd'hui qu'on a la chance d'avoir sur le salon, rien que ces deux livres-là valent vraiment le détour dans le paysage de l'édition en France.
C'est deux projets pas mal différents malgré tout, puisque Projet Merlin c'était un bouquin illustré avec une histoire, une narration, et en gros il nous fallait produire les images, et là le bouquin World and Wonders c'est un petit peu différent, c'est une compile, une anthologie de tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant, et comme disait Gilles, c'est j'ai toujours travaillé dans trois domaines qui sont connexes, qui sont tous liés par l'image, mais qui malgré tout sont relativement différents, l'illustration... qui est un boulot de synthèse, la bande dessinée, c'est plus du développement, bande dessinée franco-belge et comics américains, et également le concept art, la production orientée essentiellement jeux vidéo, où là c'est encore un autre travail, c'est une autre façon d'appréhender les choses, et c'est pas le même objectif.
Donc un petit peu tous les... Alors où tout cela va s'arrêter? Parce que moi j'ai l'impression que l'univers que nous on connaît, hein, pauvre humain, qui est, on se dit tiens, les quelques supports... qui existe. Après, ça pourrait être quoi, par exemple? Ça pourrait être le long métrage, peut-être. Je sais pas, voir tes images bouger un petit peu, ce serait pas un bon vieux fantasme, là, de voir les personnages en 3D réellement bouger tels qu'ils sont?
En ce moment, rapport à tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et la sortie de ce livre-là, je lève un petit peu le pied. J'essaie d'en profiter, de faire le point un petit peu sur tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Et la suite, je ne sais pas, j'ai toujours été relativement, extrêmement curieux. De nouveaux supports, de nouveaux sujets, de nouvelles choses. Et là, effectivement, il y a peut-être des choses qui pourraient arriver, je ne sais pas, rapport à l'image en mouvement, que ce soit clip vidéo, réalisation, pas forcément directement moi réalisation, mais travailler sur une autre façon, effectivement, de faire, de créer des images.
Parce que moi, je vois ton parcours et ton énergie, et j'ai vraiment l'impression que tu voyages énormément pour des tas de raisons uniquement professionnelles, et parce que tu es demandé un petit peu partout. Je le comprends, et j'ai vraiment l'impression que, au vu de ton parcours, j'ai l'impression que le pays, entre guillemets, l'édition française est vraiment un milieu totalement étriqué pour toi aujourd'hui. Et c'est peut-être ce qui m'a surpris, c'est en voyant le livre aujourd'hui, hein, le superbe artbook que vient de publier Alexis avec toute une bande de copains qui l'ont aidé à mettre le bébé au monde. Ce qui m'a surpris dans ce artbook, hormis sa qualité, c'est que ce soit édité chez un éditeur tout récent. Alors voilà, moi la réflexion que je me suis fait, je me suis dit, ben merde, les bons vieux dinosaures de l'édition française ont raté ça. Alors, tu peux nous expliquer comment ça s'est fait entre Café Salé et Ankama, et puis ouais, pourquoi c'est pas chez un autre éditeur.
Ouais, peut-être. Tout à fait, ouais. Pour moi c'était une super belle aventure, enfin, qui est toujours pas finie d'ailleurs. Et il y a pas mal d'éditeurs du marché franco-belge avec qui j'avais déjà discuté de l'idée de faire un artbook comme ça. Je me suis d'abord posé des questions aussi moi, enfin j'adore les bouquins, j'aurais adoré avoir un artbook comme ça et je me demandais si est-ce que c'était le bon moment, est-ce que j'avais suffisamment de matériel, comment l'approcher, comment le faire au mieux. J'ai eu des discussions également avec des éditeurs anglo-saxons, américains, où là je voyais pas mal de problèmes, comment travailler, comment être soutenu par son éditeur, comment faire avancer le travail juste par mail, ça peut être un petit peu compliqué. Et concernant Café Salé, c'est donc pour présenter vite fait, c'est une maison d'édition Café Salé Inc. qui est liée au forum Café Salé CFSL.net, qui est le plus gros forum francophone d'imagerie, imagerie digitale, photographie, tout ce genre de choses. Donc un forum très vivace, très vivant. Ils ont monté leur propre cellule d'édition, il y a de cela, ça doit faire maintenant 4 ans. Ils publient entre autres un espèce de gros annuel qui reprend un petit peu le meilleur de tout ce qui se fait au niveau illustration dans plein de styles différents depuis 4 ans. Donc ils appellent le Artbook Café Salé. Et donc à l'heure actuelle, c'est 3 personnes uniquement, Ness, Karine, Carlos Maid et Nico. Je les connais tous depuis très longtemps. Avec Carlos, par exemple, j'avais travaillé avec lui sur des concepts de jeux vidéo. On bossait chez Darkworks à l'époque sur un jeu qui s'appelait Cold Fear. Donc j'ai le souvenir de très très bons moments avec lui. Karine, idem, je la connais depuis très longtemps, bien avant que la cellule Café Salé Inc. Se crée. Pour la petite histoire, leurs bureaux sont vraiment pas très loin de chez moi, donc j'y vais en vélo et j'y suis en 5 minutes, 5-10 minutes. Donc c'est pas négligeable, c'est quelque chose rapport de proximité qui est annexe, mais en fait qui est super important, ou là en tout cas dans ce qui s'est passé sur la réalisation du bouquin, ça a beaucoup compté. Enfin, j'étais souvent fourré chez eux, et voilà, les périodes de rush ou le dernier week-end assez rock'n'roll pour terminer le livre, ça a été très 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 bon moment.
Sur le livre, tu t'es investi sur toutes les parties de la fabrication?
Quasiment, ouais. Enfin, il y a vraiment eu un suivi. Moi, j'avais jamais travaillé comme ça, et je pense que ça se ressent au niveau du bouquin final. Enfin, pas seulement moi, mais justement la cellule éditoriale, mes éditeurs, et même Céline, la chef de fab, qui a fait un boulot formidable dessus. J'avais rarement eu un tel soutien quelque part et un tel suivi éditorial. Pour la petite histoire aussi, voilà, je suis passé un matin chez eux pour prendre un café, juste dire bonjour, et j'ai balancé l'idée, en fait, j'avais derrière la tête, voilà, de compiler tous mes travaux dans un artbook. La discussion a dû durer un quart d'heure. Ils m'ont raconté qu'en fait, ils avaient le projet depuis très longtemps, enfin, je le savais, ça, de faire des artbooks. Ils avaient fait une petite liste de 4 artistes avec lesquels ils aimeraient bien commencer. Ils auraient aimé commencer. Moi, ils ne m'avaient pas dit, mais voilà, ça faisait 3-4 ans, ils m'avaient mis en tête de liste, donc ça s'est fait tout seul. Eux, ils étaient super OK. Et en gros, voilà, je suis parti et c'était pas signé, mais en une matinée, c'était fait, on partait pour faire ce livre. Tu m'as posé une question sur le suivi, effectivement. Ouais, non, il y a vraiment une attention à plein, plein de petits points. Je suis super content du résultat au final, pas seulement mes illustrations, mais même
il
le...
Il est tel que tu souhaitais vraiment qu'il soit.
Non, il est mieux, en fait. Je ne pensais pas avoir un résultat pareil. Je sais que j'aurais pu le faire chez un autre éditeur, arriver avec un pseudo-album BD, pas autant de pages. Enfin, vraiment, avec l'éditeur-là, on a défini tout le contenu. C'est-à-dire, on est parti, qu'est-ce qu'on fait, le nombre de pages, la couverture... toilé, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Est-ce qu'on essaye de faire un espèce de recueil un peu cheap, un livre un petit peu classe, essayer de faire un mix entre les deux? C'est Carlos, par exemple, qui a travaillé sur la maquette, c'est là on voit juste un petit bout, et mes images sont extrêmement chargées, et lui, ce qu'il a proposé, c'est d'avoir une maquette super aérée pour laisser respirer un petit peu, beaucoup de blanc, une typo relativement sobre. Pareil, aussi des discussions qu'on a eues, c'est donc je travaille autant peut-être pour la France que pour les États-Unis ou des clients internationaux. Donc on est parti aussi sur le double langage, c'est-à-dire de la traduction texte français et texte anglais. Donc ça pareil aussi, juste faire la traduction, intégrer ça dans la maquette sans que ça prenne le pas sur les images et que ça fasse pas un espèce de gros bottin illisible. L'optique malgré tout, c'était toujours de rester relativement aéré et de mettre les images en avant. Donc ça, c'est plein de petites décisions qui ont été, qui ont contribué à optimiser la qualité du livre. Il y a une idée aussi que Carlos avait ramenée, c'est les petits carnets de croquis intérieurs. Il y en a 5 en fait à l'intérieur du livre qui viennent rythmer les chapitres et qui viennent rythmer le livre. C'est juste un petit bonus où moi j'ai exposé justement des trucs que je montre extrêmement rarement, des croquis perso, toutes les petites notes que je prends dans les carnets Moleskine ou des petites recherches. Ça, c'était assez intéressant. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est de demander à des invités là.
J'allais t'en parler sur des invités, travail. Parce que rien que les invités valent le détour aussi, effectivement, parce qu'il y a vraiment des clins d'œil. Et puis lire Hildebrand parler de ton boulot, des trucs comme ça, bon, ça fait vraiment chaud au cœur, effectivement. Ça, ça a été quand même une collecte qui s'est faite comment? C'est des commentaires que tu avais eu au cours des années ou qui ont été sollicités pour le livre, en fait?
Non, pas du tout, en fait. Ça a été vraiment fait pour le livre.
Les copains qui parlent uniquement de tes délires du matin, et puis.
Bah là où je suis content, c'est effectivement qu'il y a un petit peu de tout. C'est j'ai demandé à des amis proches, illustrateurs ou qui travaillent dans l'image, dont j'apprécie énormément le travail, des gens avec qui j'ai pu collaborer, des gens dont j'admire le travail mais que je connais pas. Donc il y a vraiment un espèce de mix. Et le truc intéressant, je trouve que ça ramène une dimension un petit peu plus chaleureuse dans les commentaires. Parfois, en fait, l'idée, c'était d'avoir un autre axe justement sur mon travail, par le biais d'un regard extérieur.
Oui. Enfin, moi, c'est vrai que je trouve que c'est une... Bon, il y en a quand même quantité de monographies consacrées à un artiste, et hormis la qualité des images, mais effectivement, c'est un livre énorme, et quand on le feuillette et qu'on arrive à la fin, on se dit « Ah mince, déjà !» Donc ça donne vraiment envie de continuer à parcourir ton univers.
Alors, là, tiens, c'est... à propos des petites notes, là, juste un petit truc en plus, c'est que j'avais envoyé un mail donc à plein de gens, à tous les gens qui m'ont répondu, qui m'ont écrit un petit truc, et je leur demandais en fait 5 à 10 lignes, une petite anecdote, leur réflexion sur mon travail, un petit truc marrant ou pas, une analyse technique ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis retrouvé à recevoir des tartines bien plus longues. C'était pas 5-10 lignes, c'était beaucoup plus dense. Mon éditeur, Carlos, qui avait fait la maquette du bouquin, il s'est tiré les cheveux, il avait prévu en fait des espaces textes vraiment précis. Et le fait d'avoir les textes qui arrivent, de les traduire, on s'est rendu compte en termes de volume que c'était bien plus gros. Il a eu peur à un moment, il fallait changer la maquette, adapter la typographie. En fait, ça s'est passé très très bien et c'était pas un changement énorme, majeur. Mais c'était rigolo, en fait, voilà, le fait d'avoir sollicité les gens pour un texte relativement court et de recevoir des textes bien plus denses. Là, je vois la quatrième de couve, là où il y a Todd McFarlane, effectivement, qui m'a signé un petit mot. Et j'avais bossé avec lui, je l'avais rencontré en 2003 pour le premier graphic novel Spawn que j'avais fait. Pour moi, ça représente pas mal de choses. Donc, il y a aussi pas la charge, j'en ai parlé plusieurs fois, ça aussi, la charge émotionnelle, ou le fait de se replonger dans le passé, de repenser à qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, de la rencontre en elle-même. Et je crois que quand j'ai reçu son petit message, il devait être 1h du matin, j'étais justement en train de travailler sur le bouquin en mode rush, j'avais dû envoyer une douzaine de mails à son assistante pour effectivement avoir juste un petit mot. Il est très occupé, le monsieur, entre les commentaires sportifs à la radio, à la télé, sa boîte de jeux vidéo, ses toys, les comics, tout ça. Et donc ça a été super cool au final. Moi, j'ai eu des petites émotions en recevant son message, quoi.
Alors tu transmets énormément, que ce soit par le dessin ou par l'émotion, ou par ta présence, par ta communication, par ton enthousiasme à travailler. Bon, dans le livre d'ailleurs, il y a quelques commentaires de ces collaborateurs éclairés. Je vous recommande chaudement de les lire parce qu'ils sont savoureux. On imagine très bien effectivement l'espèce de lutin espiègle arrivant débarquant dans les bureaux à la sortie d'un café et mettant le mettant le bureau à son diapason. Donc ça, c'est vraiment réjouissant de lire ça. Mais j'ai quand même l'impression, du coup, que tu as ce désir de transmission, que ce soit par l'énergie, par le montrer le travail. Avant tout, c'est pas... À chaque fois que tu montres ton image, en fait, tu parles pas de ton image. Tu parles de l'émotion et de ce que tu as envie d'apporter aux autres, en fait. Donc moi, j'ai vraiment toujours l'impression que ton travail est uniquement, enfin, quasiment, pas du tout auto-centré, en fait. Pas vraiment pour le public, en direction du lecteur, en direction de celui qui va apprécier tes images. Et dans cette même optique, tu donnes beaucoup de workshops, par exemple, ou même de cours d'intervention au niveau ici, par exemple, chez Pivot, des choses comme ça. Et alors, je sais que, par exemple, page 142 dans le livre, tu as mis une citation sur les conseils à un jeune padawan, par exemple, pour expliquer que le boulot, c'est pas uniquement dessiner des monstres les plus barrés possibles, mais c'était quand même avant tout penser à comment ce monstre ou ce démon cornu pourrait être différent de ce qui a été fait depuis 20 ans.
Ouais, 50 fois avant, quoi, effectivement.
Donc, ce concept, c'est quand même, disons, l'idée qui précède l'exécution, en fait, elle est énorme chez toi. Cette part de réflexion, il y a cet automatisme et cette facilité du dessin, mais il y a aussi cette réflexion, que ce soit dans la présence des symboles, dans ce que tu as envie de passer par le biais des compositions, par les choses comme ça. Tu peux nous parler un petit peu de ce que tu caches derrière l'image, en fait. Nous, on est, je dirais, des pauvres... Là, quand on voit tes images sur un livre ou sur une projection ou sur les objets eux-mêmes, on n'a que les yeux qui vont nous traduire ça. Mais j'imagine que si on avait des capteurs sensoriels bien plus aiguisés, on arriverait vraiment à décrypter tes symboles, tes compositions, des choses comme ça. Donc tu peux nous en parler un petit peu ?
Pour parler de symboles et toute la réflexion qu'il y a derrière les images, je vais reprendre également le début de ta question. Tu parlais de l'autocentrage et c'est rigolo. En fait, enfin, pour moi, c'est avant tout c'est une passion, mais c'est également un job. Et on ne produit pas les images en fait, pour soi, on les produit pour un récepteur, enfin le public. Et c'est super important en fait de conserver ça en tête. Moi en général je pense que je fonctionne un petit peu à l'instinct. Quel serait le type d'image ou qu'est-ce que j'ai envie de voir? Il y a beaucoup de choses aussi, c'est que je fonctionne souvent à la commande, c'est-à-dire dans mon livre, la plupart de mes travaux, effectivement, c'est des travaux professionnels, dans le sens où j'ai un commanditaire, j'ai un client qui arrive avec un cahier des charges, des contraintes précises, et à moi en fait de jongler avec tout ça pour essayer de donner le meilleur. Alors parfois c'est un petit peu frustrant, parfois j'ai des commandes où on me demande d'illustrer quelque chose, je reçois un personnage, je tairai le nom, ça arrive relativement souvent, où j'aime absolument pas le design d'un personnage, on me demande de l'illustrer, de le mettre en scène, et moi je me dis en fait, oula, celui-là il nécessite très bien un gros travail de redesign, il sort des années 70 là et on l'a pas changé depuis, et voilà, et j'essaie juste de jongler avec, de le mettre en valeur au mieux. Je regardais s'il n'y avait pas un truc qui était raccord avec ce que je disais. Non, pas tout à fait. Là, c'est autre chose. C'est un petit peu plus...
On pourra y revenir en fonction des images. Après, il y a un step by step qui va passer. Bon, je pense que ça devrait pas mal plaire.
Et pour continuer là dans ce que tu disais, effectivement, donc, moi, je travaille dans l'illustration, la bande dessinée et le concept art. Et chacun de ces milieux-là nécessite une approche différente. Moi, j'aime beaucoup la partie concept art. C'est surtout là peut-être où j'essaye de développer un maximum de symbolique et de... Enfin, essayer de faire du sens, que la forme, enfin que le fond soit privilégié. Enfin, zut, il y a un message à faire passer, il y a des idées à faire passer. Ça peut être fait de façon frontale, et il y a beaucoup de choses à rajouter, beaucoup plus subtiles. En général, tu vois, quand je bosse sur du concept art, je prends mon brief, je vais dans un café et j'essaye de faire. Je fonctionne par association d'idées, donc tout ce qui me vient en tête. De prime abord, je note tout. Parfois, c'est juste des noms, le nom d'un artiste, des concepts, des choses que j'ai lues, juste un mot. Je fais des petits croquis, il n'y a que moi qui peux les déchiffrer. Et pour moi, c'est une grosse partie du boulot qui est fait. Je vais revenir ensuite sur ces notes-là, donc c'est même pas du dessin, et j'essaie juste de réfléchir et de rapprocher un petit peu tout ça avant même de commencer à produire les images. Et j'avais lu ça, en fait, quelque part dans un magazine où un artiste, un graphic designer, exposait son processus de travail. Et il procédait de la même façon en écrivant, en notant des mots-clés sur des post-it. Il mettait tous les post-it sur la table, il essayait de les relier pour essayer de trouver du sens, des idées fortes. Et ce qu'il racontait, c'est juste après, il mettait tout ça à la poubelle. Il sortait avec des potes ou il allait au ciné et il racontait pour lui, en fait, la moitié du travail était déjà fait. Il y avait la maturation intellectuelle par rapport au concept qui était déjà en route. Et ensuite, quand on revient, quand on est dans le faire, quand il faut vraiment concrétiser tout ça, bah, ouais, effectivement, il y a une partie du boulot qui est déjà faite, quoi.
Quand on voit le résultat esthétique sur la forme et que tu es en train de nous expliquer que tu mets autant de, je dirais, de conscience à travailler sur le fond par rapport à ce que tu voudrais passer dans tes images. Effectivement, on se dit qu'effectivement, on rate une sacrée part d'interprétation si on pouvait effectivement connaître ce fond. Quoi.
Peut-être que là, j'en rajoute en parlant, mais ça dépend aussi également des projets. Comme je te dis, parfois, ça peut être juste un travail plus formel pour faire une illustration de couverture ou que ce soit une carte magique. J'ai des données, j'ai des contraintes. J'ai des designs imposés, ou en tout cas des designs à suivre, c'est-à-dire sur le look d'un univers, le look d'un personnage. Et après, là, mon rôle, il est, je vais pas dire moindre, mais je suis moins dans la conceptualisation, je suis plus dans la mise en scène. Et en gros, c'est juste offrir une image qui soit à la hauteur, qui ait un pouvoir d'évocation. Je vais peut-être pouvoir rajouter des choses, je sais pas, en termes de composition, une petite symbolique cachée, mais c'est pas toujours le cas. Et parfois, là, je vais dire, c'est plus, je fonctionne à l'instinct, et c'est plus une approche ouais, frontale, quoi, faire une image qui soit marquante et qui impressionne.
Mais par exemple, tu cites les cartes magiques. Moi, comment est-ce qu'on peut se motiver, par exemple, au tout départ, par exemple, la commande de ta première carte, ne sachant pas ce qu'elle allait advenir, comment faire un boulot, par exemple, je sais pas, de 50 cm de haut, ultra détaillé, ultra fort, ultra avec un fond, comme tu dis, une réflexion intense, pour finalement, à la sortie, avoir un produit final, disons, qui fera 5 cm par 4, quoi. On n'a pas tendance à se dire, bah tiens, bon, le support est tout petit, il y aura telle diffusion, mais je vais en faire juste, entre guillemets, pour leur argent, même si ce n'est pas le cas, mais, ou carrément, disons, un peu sous-estimer son travail. Parce que quand on voit tes travaux, on se dit, waouh, dommage que les cartes magiques ne fassent pas un mètre de haut, quoi.
Ouais, mais comment dire, enfin, y a plein de paramètres, clients prestigieux. C'est plutôt pas mal rémunéré par rapport, enfin, pour un travail d'illustration. Et ensuite, ça fait juste partie de la contrainte. C'est effectivement la première utilisation des images, elle se fait à tout petit format. C'est-à-dire que l'illustration sera imprimée sur une carte, elle fait 5 sur 3 cm. Mais les images, en fait, circulent ensuite, elles sont utilisées sur d'autres supports. Et moi, je sais qu'ils ont réutilisé pas mal de mes visuels, ben, en couverture de magazines. Quand je vais à un tournoi, là, les tournois internationaux, que ce soit les Grands Prix, les Pro Tours, ben, j'utilise pas mal d'images, en fait, sur des bannières, sur des bâches voilà, de 5 mètres de long, 5 mètres de haut. Là, du coup, y a un intérêt à pousser les images et à rajouter du détail. Donc, c'est vraiment dans toutes les utilisations qui sont faites des illustrations magiques là, que je peux me retrouver. Et bah, juste dans le faire aussi, c'est une approche assez intéressante. Toujours rester extrêmement synthétique, jamais perdre de vue effectivement que l'image sera imprimée sur un support extrêmement petit. Donc, il faut que ça soit très clair et évident. Et ensuite, rajouter suffisamment de vernis, de polish, de détails pour que même à grosse échelle, l'image soit toujours aussi intéressante et attractive. C'est vraiment un exercice particulier, ça, justement.
Et alors, quand on a ton travail, quand on a ton esthétique, je dirais ta puissance de travail, et que, sans te brosser, on sait que ton boulot est en train d'influencer quasiment une génération complète de jeunes graphistes, les jeunes padawans dont tu parles dans ton livre. Du coup, quelles sont, toi, tes influences, en fait? Est-ce que ce sont uniquement des influences, entre guillemets, de grands maîtres, je dirais, ou, à l'heure actuelle, par exemple, je sais pas, un film qui te marque, une ambiance, un réalisateur dont l'esthétique te colle à la peau, des choses comme ça, et que des personnes dont tu peux suivre le travail en te disant, waouh, je suis sous cette influence-là, ou en tous les cas, de cette école-là, je la revendique?
Je sais pas, je pense que j'en ai plein, énormément, des influences. J'en ai eu forcément au tout début, enfin des choses que j'ai vues qui m'ont poussé à dessiner. La découverte des personnages, bah, des X-Men, par exemple, dans les séries Marvel, tous les super-héros, tout ça. Ça a été une grosse part des impulsions, on va dire, initiales. Bon, la saga Star Wars, voilà, grosse claque. Je crois qu'en plus, il y a un truc assez rigolo, j'en parle dans la petite bio, là, au tout début du bouquin. C'est que j'étais vraiment gamin et j'avais un copain plus vieux que moi, juste à côté de notre maison, qui avait toute la collection des Toy Star Wars et qui avait qui disait Strange, Nova, enfin tous ces magazines. Et moi, je connaissais pas tout ça. Et il arrêtait pas de m'en parler, de me raconter les histoires. Je crois que je devais lui redemander à chaque fois de me résumer le film Star Wars, qu'est-ce qui s'y passait. Je comprenais absolument rien. Ça avait l'air super classe. Voilà, il y a des vaisseaux spatiaux et tout. Et je pense que le fait que j'avais pas accès à la source, ça m'a fait fantasmer encore plus. Et j'ai pas été déçu quand j'ai découvert ensuite, mais j'étais déjà quelque part préparé à ça. Après, ensuite, pour faire un grand écart, accélérer.
Juste pour reparler de ça, t'as pas des photos de toi en costume de Spider-Man que tu t'étais fabriqué toi-même?
Non, 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 ça c'est arrivé après, mais...
Je regrette.
Et ensuite, plus tard, bah voilà, je suis retombé sur sur les premiers magazines à qui publiaient les séries Marvel. Ça m'a pas mal impacté. Une grosse partie aussi d'imaginaire, bah, les illustrateurs anglo-saxons, là, pour tout ce qui est jeu de rôle, même si j'étais pas rôliste, c'était ces univers fantastiques, tout ça. Il y a la bande dessinée Slane de Simon Bisley là, qui m'a grave impressionné. Je viens surtout d'une couverture en fait, où il y avait une très très belle maîtrise technique, anatomie d'un personnage, où on voyait, il avait laissé en fait sur son illustration un repentir, c'est-à-dire qu'on voyait le croquis initial d'une main qui a été reprise deux fois, et on sentait en fait l'énergie du dessinateur. Et le truc qui m'avait sidéré, c'est moi j'essayais de dessiner ou de peindre un petit peu, et les cheveux c'était des coups de brosse extrêmement rapides sur lesquels il était revenu avec du stylo bic. Et je me disais, waouh, le gars il est capable de maîtriser en fait l'anatomie à ce point. Et quelque part, il ose revenir avec juste un stylo bic pour faire la finition de son truc. Il y avait une telle énergie dans son machin. Ça, j'ai essayé de le refaire après. Voilà, c'est le genre de petits trucs qui m'ont poussé à, comment dire, à creuser la peinture et ce genre de choses.
Et ton dessin se perfectionne au fur et à mesure de tes commandes, en fait, puisque tu...
Ouais, de mes commandes. Et quand tu me parlais d'influence, là, juste avant, je pense qu'aujourd'hui, je suis toujours resté extrêmement curieux. Encore une fois, j'essaie de varier un maximum mes champs d'activité. Au tout début, quand on me demande, c'était mu par... typiquement, je suis sorti de l'école et j'avais peur de ne pas avoir de travail. Donc, j'ai essayé, en fait, de diversifier mon book au maximum pour être capable de répondre à toutes les commandes qui pouvaient tomber. Il n'y avait pas que ce paramètre-là, il y avait le paramètre des choses que j'ai appris à l'école. Et donc c'était une école qui n'était pas du tout orientée dessin, ni illustration, ni représentation figurative. C'était vraiment du graphisme pur, culture de l'image. Mais il y a un truc que j'ai vraiment apprécié et qui me resserre encore énormément aujourd'hui, c'était identifier, avoir un message, quelque chose à dire, et trouver seulement ensuite la forme pour le véhiculer. C'est un petit peu à 100 milieux, là, quand je parle de ça, de ce que je fais aujourd'hui. Mais il y avait quand même cette idée, si on a un message, en fait, de... Si le message est mieux véhiculé par un jeu typographique, par 2-3 collages, utilisons ça. Si c'est une illustration pour enfants, parfait. Si c'est un code BD, nickel. Si c'est juste de la photographie, c'est ce qu'il faut utiliser. Donc ça m'a poussé, je pense, à creuser un petit peu mon éclectisme. Et puis le dernier point, c'est envie de me renouveler. J'aime bien le petit défi d'essayer des choses nouvelles. Et je me suis rendu compte, en fait, en compilant les images dans mon livre, que j'avais tendance à pas me reposer sur mes lauriers. Mais récemment, j'étais un petit peu moins dans l'expérimentation qu'avant. Et je vais essayer d'utiliser ce petit break, mais le fait d'avoir sorti le livre et de me remettre au travail et peut-être d'élargir un petit peu tout ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, je vais continuer juste par rapport à ta question sur les influences. À chaque fois, en fait, je travaille sur un projet différent. Je vais essayer de creuser et de trouver des influences, en fait, qui sont intéressantes, en adéquation. Je te dis, je ne sais pas, par exemple, bosser sur Merlin. Ben, on va, avec Jean-Sébastien, on a essayé d'aller creuser plus loin. Donc, à la fois d'aller voir, je ne sais pas, dans les films hollywoodiens récents, l'imagerie fantasy, qu'est-ce qui se faisait, Le Seigneur des Anneaux, être à la hauteur, d'aller creuser encore plus loin dans l'histoire. On a glissé pas mal de référents. On en avait parlé, je crois, l'année dernière, quand on avait présenté le livre. Des référents à des peintres classiques, à des peintres symbolistes, des peintres pré-raphaïtes. Dans le design même du livre, on allait puiser dans un vieux manuscrit, le livre de Kells, pour essayer de détourner un petit peu ou d'aller plus loin que ce qui se faisait en imagerie celtique, arthurienne habituelle, où on prend juste des motifs, des entrelacs. Et à chaque fois, en gros, alors après ça va dépendre, il y a une intensité différente dans mes travaux, c'est juste un boulot de commande pour juste une illustration, ça va pas être le même travail de recherche que si c'est un travail de 3 ans, de 3 mois, mais à chaque fois essayer d'aller creuser effectivement les sources et trouver des influences qui soient pertinentes.
Juste pour continuer sur le Merlin, le livre Merlin, c'était donc 3 ans de travail à deux en fait avec Jean-Sébastien Rosbach.
On parle de 3 ans de travail, mais en fait c'est pas 3 ans de travail continu et effectif. C'est entre la signature et les premiers jets et la sortie du livre, il s'est passé un petit peu plus de 3 ans. Mais justement, moi, pendant les mêmes 3 ans, j'ai travaillé sur... J'ai fini un graphic novel, une bande dessinée Spawn, qui est toujours pas sortie, mais j'ai fini depuis un an, sur lequel j'ai réalisé 44 pages en couleur, la couverture, toute la maquette, la quatrième de couve, des pages bonus. En même temps, j'ai travaillé sur le développement et le lancement d'un projet de jeu vidéo et de notre studio de jeu vidéo. Et en parallèle, je continue à faire un gros paquet d'illus. Donc en gros, ça recoupe avec ce que je disais tout à l'heure là, sur l'éclectisme, c'est que j'arrêtais pas de changer de sujet et de projet. Ça faisait un petit peu beaucoup, mais c'était cool.
Alors tu parles de la série Spawn avec un deuxième album, donc ce serait... Ouais. Comment on se retrouve, entre guillemets, jeune illustrateur, faisant un Spawn pour les États-Unis, best-seller dès la sortie? Comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut être à l'aise de se glisser dans ce type de basket-là? Parce que là, c'est quand même
C'est pas une histoire d'être à l'aise ou pas, c'est une histoire de dynamique et ça se fait pas tout seul, mais ça prend du temps. C'est juste un enchaînement d'événements, de rencontres, à force de travail. Quand on me demande, je parle souvent d'une dynamique exponentielle. En fait, des choses qu'on crée, on bosse sur un petit projet pour un éditeur, on essaie de faire au mieux, enfin, de donner le meilleur de ce qu'on peut faire. Les images vont circuler, il y a forcément un autre éditeur ou un autre client qui va tomber sur ces images, à qui ça va plaire, hein, qui va rappeler. Parfois, ça prend 6 mois, mais c'est une espèce d'avancée logique et continue comme ça. Par exemple, là, tu vois, en fait, ce qui s'est passé, c'est... quand j'étais au lycée, je faisais des petites illustrations noir et blanc pour un fanzine qui s'appelait Scarce, qui tirait à 1000 exemplaires. C'était les premières publications, donc c'était pas professionnel. Et dans ce magazine-là, en fait, il y avait un gars qui écrivait, qui s'appelle Thierry Mornay, qui travaille maintenant aux éditions Delcourt, qui s'occupe, qui est éditeur en fait de toute la partie comics, qui à l'époque, en fait, j'envoyais des dessins dans ce prozine-là. Et Thierry, ensuite, a avancé professionnellement comme moi. Il est rentré dans l'édition, il est rentré éditeur en chef chez Semic. Et c'est lui, en fait, qui gérait la traduction de Spawn. Moi, de mon côté, j'ai continué à avancer. J'ai travaillé dans le jeu vidéo. Thierry aussi, j'ai oublié. En fait, j'ai fait mon premier stage de fin de BTS chez lui. Donc, ça a créé une première connexion. À cette époque-là, donc, il travaillait pas encore dans l'édition... l'édition bande dessinée. Donc voilà, c'est une histoire de parcours, on s'est pas perdu de vue, c'est des choses que tu fais comme ça. Et lui, il m'a appelé la première fois pour un... il était grave dans la merde, avec un comics qui était l'adaptation de Alone in the Dark, et un auteur US en fait qui l'a planté au bout de 5 pages, et ils étaient grave en retard. Et il m'a fait confiance, il m'a filé les rênes pour la suite, donc ça a été vraiment boulot hardcore. Pour moi, je suis pas super satisfait, même à l'époque, de la qualité de dessin, mais pour moi, c'était faire démonstration professionnelle, être capable de répondre à une... on va dire, situation d'urgence, et tomber de la page. J'arrivais chez lui, on devait balancer les pages au scan, et je les retouchais encore sur la table avec le Tipex et des crayons noirs et blancs, juste avant de lui filer. Et ensuite, j'enchaînais dans ma boîte de jeux vidéo où j'étais salarié, et je revenais la nuit, et je retravaillais sur les pages, et je prenais des jours de congé pour finir. Et voilà. Et juste, donc ça m'a permis de créer un très très bon rapport avec lui. Et ensuite, on a initié le premier projet Spawn. Lui, il avait un très bon contact avec McFarlane. Il est allé lui proposer. Et après, voilà, il y a tout qui s'enchaîne.
Alors, juste une aparté par rapport à ton travail sur Merlin. Parce que on connaît tes images. On voit ton parcours et ton œuvre, disons, dans son ensemble. Et lorsqu'on le découvre en collaboration avec Jean-Sébastien, donc sur le Merlin. Il y a quand même si effectivement chaque image est retravaillée par l'un et par l'autre en même temps quasiment, mais il y a quand même deux aspects différents, à savoir l'aspect guerrier violent d'un côté et un aspect un peu plus romantique, comme tu disais, référence à des peintres type pré-raphaélite et autres dans le livre. Et, ton travail quand même dégage une sacrée violence. Ouais, tu pourrais nous en parler là, sans t'allonger forcément, mais est-ce que...
Non, je pense que je suis capable de faire les deux.
C'est quoi? C'est moins de 30 ans et on se dit, waouh, on va défoncer le truc, on va leur montrer, ou est-ce que c'est...
Je saurais pas trop dire, et je pense aussi même sur le bouquin Merlin ou d'autres projets, en fait, il me semble être capable d'alterner, justement d'offrir ou de produire des images qui sont un peu plus romantiques. Ouais, t'es en train de dire que Jean-Sébastien, c'est le gros romantique
Je sais pas, bon, on avait peut-être un peu cette impression aussi, mais bon, ça c'est après quand on vous voit tous les deux, peut-être. Mais non, mais disons, effectivement, qu'est-ce qu'il en est? C'est plus, c'est bon, la commande influence forcément le produit final, mais voilà, est-ce que c'est aussi des ambiances qui t'attirent? Bon, voilà, plus douce, un petit peu plus.
Non, mais c'est vrai que dans mes images, il y a toujours un truc...
Ne me frappe pas, j'ai pas.
C'est toujours de la fantaisie, du fantastique, des images oniriques, ce genre de choses. Et je suis souvent mu où il y a beaucoup de mes images où effectivement qui sont, comment dire, punchy, où j'essaie de travailler sur ça, l'impact visuel, et d'avoir quelque chose de fort. Je me demande si, là c'est la psychanalyse en live, là, si ça vient pas justement quand j'étais petit, plus jeune. Je crois que ma première impulsion c'était le cinéma fantastique et créer des impressions de vie, faire peur, impressionner. Et en gros je faisais des prothèses en latex et ce qui me faisait triper là-dedans c'était de produire les prothèses, de les coller sur le visage de mon cobaye préféré, c'était ma frangine, quoi. Et de tourner autour et d'avoir l'impression en fait d'avoir une créature vivante, nouvelle, qui fascine, qui est sidérante, qu'on peut... Qui est vrai. Et je pense que c'est ça qui a orienté aussi mon travail, dans le sens où j'essaye de développer des images relativement figuratives et détaillées, une sorte d'impression de créer de la vie. Et ouais, il y a peut-être ce truc, faire une forte impression. Ouais, faire...
Je sais pas. Ça fonctionne en tous les cas, ça fonctionne. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, je t'imagine très bien tournant autour de ta frangine dans la cuisine avec cette jolie prothèse en latex collée sur le visage. Ça me fait penser à la modélisation. Donc au niveau du processus de travail, est-ce que par moment tu fais appel à de la modélisation 3D pour pouvoir travailler sur tes créatures? Je sais que tu travaillais aussi avec ZBrush à l'époque. Je ne sais pas si tu as
continué. Non, j'ai essayé ZBrush et je n'ai pas eu assez de temps pour creuser cette voie-là, mais effectivement, quand j'étais, moi, j'adorais la sculpture, je faisais des maquettes, je faisais de la sculpture pure. J'aimerais bien m'y remettre. La super extension, justement, c'est l'outil digital qui fait grave gagner de temps, et que ce soit la plupart de mes travaux dans le livre, donc juste en imagerie 2D, là, sont réalisés en digital, même si je viens du traditionnel. Et je pense que de la même façon, en sculpture, on peut retrouver le même plaisir. Pas le plaisir tactile, mais en tout cas le plaisir de peaufiner un mesh, de revenir dessus, voilà, par le biais d'un soft. Il y a d'autres outils que j'utilise un petit peu. Enfin, ouais, non, j'ai pas trop creusé, mais je pense effectivement que ça serait quelque chose, moi, qui me ferait avancer, en tout cas de développer un petit peu tout ça, d'intégrer plus d'imagerie digitale, de 3D, par exemple pour du concept art, ça peut être super intéressant.
Alors, à propos de développement et que quelques-uns de tes projets. Tu t'es embarqué il y a quelques années maintenant dans une folle aventure avec un studio de création de jeux vidéo, donc avec les deux écrivains Alain Damasio et Stéphane Beauverger. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu le pourquoi du comment et surtout comment ça t'a fait évoluer de illustrateur entre guillemets solitaire prenant des commandes et puis avec quelques collaborateurs, je dirais ponctuels, comme par exemple Jean-Sébastien avec Merlin. Comment ça t'a fait passer donc de cette situation-là à une gestion aujourd'hui d'un studio de création de 80 personnes. Tu peux nous en parler un petit peu?
Je pourrais pas parler de ce qu'on produit aujourd'hui ou le projet sur lequel on planche.
Tu nous as pas amené des images, une idée?
Non, impossible. C'est encore trop tôt là pour en parler, mais voilà, on a une équipe de 80 personnes à l'heure actuelle et la jeunesse du projet est super intéressante. Et même moi, en regardant ça avec du recul, je me demande comment c'est arrivé. Comment c'était possible. En gros, c'était deux collaborateurs, des producteurs qui travaillaient chez Ubisoft, avec qui j'avais déjà travaillé à l'époque, ou qui avaient une petite expérience dans le jeu vidéo. Et on a essayé, de développer. On s'est vu ensuite, et on planchait sur quelque part un projet de rêve, entre guillemets. Ça craint.
C'est pas grave. Bon, alors on va parler d'autre chose pendant ce temps. Et vous, alors, vous avez fait quoi ce matin?
J'ai pas pensé là.
Non, c'est pas. Et quand tu parles de projet de rêve, en fait, ça veut dire que les structures existantes ne te permettaient pas de pouvoir réaliser ça. Alors.
On se voyait toutes les semaines, tous les mercredis, c'était couscous vin rouge et on parlait de qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel type de jeu. Et, voilà, on a continué à bosser sur le projet. Je crois qu'on était quatre à l'époque, au tout début, où il y a une cinquième personne qui a lâché. Et vraiment, on n'avait absolument rien, pas de fond, pas de structure, juste des envies. Et on a continué à travailler, à essayer de travailler le réseau de contacts. Les gens avec qui j'étais, les autres associés, avaient un catalogue, beaucoup plus de contacts dans la profession, puisqu'ils étaient producteurs. On a continué donc à développer le contenu même du jeu, mais à l'époque c'était que des documents, et c'est un truc à l'heure actuelle dans le jeu vidéo qui paraît impensable. Enfin, on a besoin d'une équipe, de développer un proto, d'avoir une technologie, un moteur. Et nous, je crois que les premières présentations qu'on a faites, c'était avec des G.I. Joe à moi, où j'ai produit 2-3 gifs animés. Mon meilleur pote avait produit une petite vidéo, son père l'avait aidé juste en manipulant des jouets. Donc c'était assez comique, et c'était juste pour transmettre en fait les premières intentions. Et ensuite, y a beaucoup de choses qui sont passées à force de travail. On a trouvé un investisseur qui est devenu, qui est tombé amoureux de l'équipe. Donc ça, forcément, c'est un bon déclencheur pour commencer à recruter des gens, développer la structure. Et petit à petit, en fait, voilà, ça avance. Et c'est pas encore fini, mais je pense que ça, on en reparlera un petit peu plus tard, l'année prochaine ou dans 2 ans, où là, on aura du concret.
Tu avais jeté le costume de Spider-Man, mais tu avais gardé les G.I. Joe.
Tout à fait, je les ai toujours.
Et alors, juste pour faire, je dirais, baver les joueurs qui peuvent être dans la salle, tu es en train de nous expliquer, en deux mots, qu'on attend un produit qui ne s'est pas encore vu, alors. Vous allez...
Oui, mais je peux pas en parler.
Entre guillemets, péter la baraque, c'est ça?
C'est
pour vraiment savoir à quoi tu passes tes heures actuellement. Pourquoi tout ceci? Pourquoi toute cette énergie? Donc c'est vraiment pour faire un produit autour du jeu qu'on n'a pas encore vu. Ça fait juste rêver, on est d'accord. On se dit, waouh, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Écoute, bravo. On va peut-être quand même poser la... si vous avez des questions aussi, peut-être. Il faut peut-être nous arrêter, parce que sinon, on va y passer la journée. Ce serait génial, mais... Disons, si vous avez des questions, Je préférerais qu'on les pose avant qu'on se fasse virer de la scène par la prochaine table ronde. Mais on ne va pas bouger tant qu'on ne se fera pas virer quand même. Mais alors, donc, si vous avez des questions, vous venez, vous prenez. Peut-être hein, vous servez vous-même, d'accord? Ouais.
Tu dois y aller, je pense.
Non. Il y a quelqu'un qui veut poser une question ou pas du tout? Si, au fond, là-bas. Bon, j'arrive.
Juste un petit commentaire, là, il y avait une petite vidéo qui passait, en fait, c'est le work in progress de la réalisation de la couve. C'est un truc qu'on a, voilà, un petit bonus qu'on a fait en plus de, du bouquin. La couve, je l'ai faite spécifiquement pour le livre, donc en essayant de réfléchir sur qu'est-ce qui serait le mieux pour synthétiser un petit peu tout le contenu. Donc un espèce de mélange de fantasy, d'éléments de SF. Attention. Oui. Personnage, j'ai beaucoup travaillé sur les personnages, donc voilà, mettre un personnage en scène. Il y avait la petite idée d'avoir, pareil, d'avoir une espèce de composition très graphique qui attire le regard avec, il y a une espèce de Z là, comment dire, pas un Z mais une espèce de griffe orange qui fonctionne visuellement.
On pourra voir le step by step du dessin, ouais. Merci.
Et travailler sur la composition, voilà, avec sens de lecture. Notre sens de lecture, on lit de gauche à droite et dans le point bas droit de l'image, c'est l'ouverture vers un espèce de décor, une espèce de fenêtre sur un décor, un environnement fantastique qui recolle un petit peu, voilà, la majorité des illustrations que je produis. Et donc ouais, c'était le truc un petit peu marrant, on en fera un DVD tutoriel, enfin il est déjà fait, là où je commente pendant 2 heures, c'est 30 heures de travail, je crois 25 à 30 heures qu'on a passé en accéléré, et ça dure 2 heures, et en gros je commente un petit peu tout le process, et puis je pars un petit peu plus loin en faisant des liens.
Il va être visible sur le net ce tutoriel ?
Pas sur le net, on le produit, c'est un DVD qui devrait sortir au début de l'année prochaine.
Wow.
Voilà. Le truc intéressant également, c'est, même moi, ça me permet d'avoir un petit peu de recul. Enfin, c'est un super exercice, je ne l'avais jamais fait. Je l'avais fait plusieurs fois, mais pas aussi intense. Mais le fait de voir son propre process, comment on avance sur une image, c'est extrêmement enrichissant.
Donc c'est pour ce DVD-là que tu as gardé les photos en costume de Spider-Man, donc.
J'aurais aimé, mais on les mettra en bonus. Ouais.
Et moi, j'ai quand même une question dans la salle. Avec cette somme de boulot, parce que les journées doivent être longues quand même, j'imagine des nuits de repos à peu près normales, on arrive à garder tous ses potes. Comment est-ce qu'on fait pour rester en lien avec la réalité, si ce n'est pas uniquement dans le cadre du travail? C'est juste pour parler un petit peu d'autre chose que de,
la
que
vie,
de travail
quoi,
eux-mêmes. Quoi. La vie non, continue autour
ou, tout je pense que j'ai travaillé comme un malade, vraiment, beaucoup.
Là, tu as envie de lever le pied. Quoi.
Ouais, tout à fait. Après, je pense que quand tu parlais de quoi, tu parlais de perdre pied avec la réalité. Je pense que je suis malgré tout très terre à terre. Quand on me parle, enfin, des fois on m'interroge et tout, avec l'espèce de cliché, voilà, l'artiste au fond des bois dans sa cabane qui peint nu et qui vit dans son monde ou je sais pas
avec
quoi.
Avec les dreads.
Voilà, tout à fait. En fait, je pense pas être, que ce soit le cas du tout. Je pense même, tu vois, à la réalisation de notre studio de jeux vidéo, en fait, où il y a pas mal de projets que j'ai initiés où. C'est pas seulement voilà, faire des visuels, c'est vendre aussi un projet, c'est être proactif, c'est convaincre les autres, mettre de l'énergie là-dedans. Ça, c'est quelque chose que j'aime aussi, ou je sais pas, qui se fait naturellement. J'ai envie que les choses se fassent, et, c'est se donner les moyens. Et donc là, il y a quelque chose de. Il y a les contraintes physiques, les contraintes réelles, c'est être en phase malgré tout avec la réalité. Je pense que j'ai toujours réussi malgré tout à être conserver mes amis, à être toujours super entouré. Je m'en suis rendu compte, voilà, avec les petits mots que pas mal de proches m'ont fait dans le livre. Et après, non, je te dirais plus, c'est juste plus que les amis, tout le reste, c'est juste prendre du temps pour soi. Et ouais, voilà, pas seulement être dans le taf tout le temps et s'aérer un petit peu la tête, peut-être plus. Et là, voilà, je me dis que j'ai travaillé comme un maboule pendant 12 ans et que c'est peut-être. Pas peut-être, là on sait en ce moment, là je continue la promo du livre, et j'essaie juste de prendre un petit peu de recul, de me poser des questions et puis d'enchaîner les nuits comme un malade.
Bah écoute, moi je vais juste te remercier de ta présence, de ta disponibilité, de ton énergie et ton sourire et tes images. Merci de nous avoir consacré cette heure. Tu seras encore présent sur le salon,
ouais.
quelques heures, j'imagine.
Oui, tout à fait.
Et puis, rendez-vous dans les quelques prochaines années pour suivre tout ça, parce que là, c'est juste le premier bilan d'une douzaine d'années. Et moi, j'ai hâte de voir les 90 prochaines. Merci à toi.
Merci à tous.